Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Gérard Davé et Fabrice Lhomme dans l'ordre en suivant à la tribune, qui sont donc les auteurs de ce livre présenté ce soir qui est intitulé « Sarko m'a tué », avec évidemment, tout le monde l'aura identifier une fameuse faute d'orthographe, une faute de grammaire, mais qui est parfaitement volontaire, évidemment, puisque je vous rappelle que cette phrase a d'abord une histoire, qui est celle d'un fait divers tragique qui a concerné une personne, une madame Marshall, dont on a retrouvé près du corps assassiné, écrit avec des lettres de sang, cette fameuse phrase « Omar m'a tué » avec la faute d'orthographe. Mais ce n'est pas pour ça, d'une certaine façon, je pense, enfin je parle sous leur contrôle, que le titre a été récupéré. C'est parce que plus tard, dans un autre événement, quelqu'un qui s'appelle toujours Monsieur Rousselet, qui était le patron de Canal+ et d'Havas, a été débarqué entre 1993 et 1995 de la présidence de la chaîne cryptée. Et M. André Rousselet était antérieurement le directeur de cabinet du président de la République, François Mitterrand, de 1981 à 1983. Et André Rousselet a signé une célèbre tribune dans le journal Le Monde, reprenant cette phrase « Omar m'a tué » intitulée « Édouard m'a tué ». T-U-E-R. Et je pense que c'est en référence, évidemment, à cet Édouard m'a tué que le titre a été retenu par Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Tous les deux grands reporters au Monde, au journal Le Monde. Et donc vous avez, je l'espère pour vous, maintes fois l'occasion de lire leurs enquêtes et leurs papiers, car ils s'inscrivent, si je puis dire, dans la grande tradition des enquêtes et des enquêteurs du journal Le Monde, alors qu'on retrouve aussi dans d'autres titre. Peut-être que c'est un effet d'optique, j'ai tendance à dire peut-être un peu de moins en moins, malheureusement. Mais en tous les cas, Le Monde, et c'est l'honneur de ce journal, poursuit avec constance ce travail, ce soutien aux enquêteurs. Alors on va en parler, parce que forcément, leur livre, c'est aussi une réflexion sur le journalisme d'investigation, même s'ils ne se livrent pas à l'introspection, c'est-à-dire même s'ils ne prétendent pas faire un sorte de regard, en effet, d'abîme, comme on dit, sur les heurts et malheurs des journalistes d'investigation. Forcément, leur métier ressort aussi dans ce texte. Il y a 27 portraits, ou 27 chapitres, ou 27 histoires présentées dans ce livre. Alors, on pourrait faire le détail du casting, de leur sélection. Il y a un certain nombre de hauts fonctionnaires. J'ai détecté, repéré, identifié au moins 4 préfets ou sous-préfets. Peut-être que je me trompe dans les comptes, mais on est à peu près dans cette proportion-là. Il y a un haut magistrat qui est connu à Bordeaux puisqu'il a été le procureur qui a signé l'arrêt de renvoi de Maurice Papon devant la cour d'assises de Bordeaux, le président Marc Robert. Il y a des militaires, enfin il y a au moins un militaire, un officier supérieur, enfin, un officier de gendarmerie, un chef d'escadron, un commandant, le commandant Matelli. Ça, ce sont au chapitre des fonctionnaires, ou des hauts fonctionnaires. Et puis, il y a femmes, hommes politiques, moins nombreux peut-être, mais en tous les cas, on les retrouve. En particulier, à la fin du texte, on retrouve, avec presque une mention spéciale, Dominique de Villepin, qui est un peu présenté comme la formule exacte, ça doit être celui qui est en haut du podium dans la détestation. D'autres personnalités réapparaissent encore, si je puis dire. Un homme d'affaires ou quelqu'un qui a eu à rencontrer des amis et à être confronté à des amis de Nicolas Sarkozy. Donc quand on termine ce livre, quand on referme ce livre, qui se lit, on peut le dire, à la fois comme un roman policier, mais comme un vrai travail d'enquête, on a presque tendance à se retourner pour savoir si on a été suivi et finalement si on n'a pas fait l'objet de séquences photographiques qui feraient et qui présenteraient notre société un peu comme un gigantesque photomaton où tout le monde rentrerait ainsi à la postérité. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que les 27 personnes, les 27 personnages, les 27 personnalités que vous avez choisies, est-ce que vous considérez qu'il y a des catégories autres que les catégories socio-professionnelles? Est-ce qu'il y a, j'allais dire, dans les sanctions ou dans les meurtres symboliques dont ils ont été l'objet, des différences? Est-ce que, finalement, ce que vous présentez comme étant la succession d'actes, à tout le moins, on va dire, inélégants, avec un sens aigu de l'euphémisme, mais on devrait dire plutôt d'actes qui parfois relèvent à l'évidence je dirais pas de forfaiture, mais enfin d'usage inconsidéré du pouvoir, hein, ou d'excès de pouvoir. Est-ce que vous considérez qu'ils sont pratiquement tous traités de la même façon? Je ne dis pas, est-ce qu'il y en a qui méritent plus que d'autres, mais est-ce qu'on peut identifier des classes, entre guillemets, dans une forme de taxinomie des victimes de Nicolas Sarkozy?
Alors, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bon. Donc, merci d'être là, d'abord. Pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a parmi ces 27 personnes plusieurs catégories, effectivement. Il y a ceux qui ont été tués administrativement. Je pense donc au préfet dont vous faisiez, à qui vous faisiez allusion. Je pense par exemple à Dominique Rossi, ce ex-préfet de Corse qui a été débarqué parce qu'il avait laissé quelques nationalistes envahir la pelouse de Christian Clavier. Du jour au lendemain, il a été débarqué. À Jean-Pierre Avrin, le patron de la police de sécurité à Toulouse, qui lui aussi a été débarqué. Donc ça, ils ont été, quelque part, sur le plan administratif, totalement tués. Ou alors il y a Pierre de Bousquet-Florian, qui lui était patron de la DST, donc des services de contre-espionnage, et qui s'est retrouvé, qui est aujourd'hui en poste dans le Pas-de-Calais. Donc c'est, en général, on fait le chemin inverse, on passe d'abord du Pas-de-Calais à la DST.
David Sénat, bien sûr.
David Sénat, bien sûr, aussi. Donc ces gens-là ont été tués administrativement. Il y a ceux aussi qui n'étaient pas des préfets, mais qui ont été des grands témoins et qui ont eu à souffrir des méthodes de Nicolas Sarkozy. Je pense par exemple à Claire Thibault, cette comptable qui était à Bordeaux il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs au tribunal de grande instance, la comptable de Bettencourt, qui a été, parce qu'elle a voulu dire sa vérité, a été vraiment piétinée par le pouvoir, hein, par Philippe Courroy, en l'occurrence le procureur de Nanterre, qui n'agit jamais de sa propre initiative. Et puis, il y a les autres aussi. Il y a, je pense aussi à Dominique de Villepin, au Patrick de Védjean, qui, eux, sont les hommes politiques qui existent toujours, qui sont toujours en position de pouvoir avoir des honneurs, mais qui ont, à un moment donné, été en disgrâce et qui, donc, ont eu à souffrir de méthodes pour le moins contestables. Et enfin, il y a ceux comme par exemple Aurélie Filippetti, la députée socialiste, ou Julien Drey, autre député socialiste, qui, eux, ont fait l'objet de mesures extrêmement, j'estime, antidémocratiques. C'est-à-dire qu'il s'est agi de faire fuiter des procès-verbaux de police dans la presse pour leur nuire parce qu'ils étaient proches de Ségolène Royal. Voilà. Donc tout ceci fait un panel de personnalités très dissemblables, avec des mesures de rétorsion ou de représailles à leur égard très dissemblables, mais à chaque fois très efficaces.
Fabrice,
Ce que je pourrais ajouter, c'est qu'effectivement, le fait que la méthode soit globalement la même, mais qu'il y ait des nuances, tient beaucoup, on va dire, à la personnalité des victimes. C'est-à-dire que vous avez des victimes qui sont des personnes qui ont de l'influence, qui sont dans des réseaux parfois, qui peuvent se défendre, qui ont, je sais pas, une facilité d'accès aux médias, qui donc vont pouvoir éventuellement, si ce n'est répliquer, du moins pouvoir encaisser le choc. Vous avez des victimes, en revanche, si on prenait l'exemple le plus caricatural, qui est celui de Claire Thibault, la comptable, qui ne sont absolument pas préparées à ça. C'est-à-dire que Claire Thibault, c'est une femme, je pense que son témoignage est l'un des plus émouvants du livre, c'est une simple comptable qui, un jour, se retrouve déclarée ennemie d'État. C'est vraiment ça. Et elle a toute la machine de l'État qui va se mettre en branle pour l'écraser. Et il est évident qu'une personne comme ça n'est pas préparée à recevoir ça. Et de fait, c'est une femme vraiment brisée, dont on a encore eu des contacts avec elle récemment. Sa famille est détruite, elle prend des antidépresseurs, elle envisage de quitter le pays. C'est vraiment, je pense qu'elle ne s'en remettra jamais. Et évidemment, à l'autre extrémité du livre, vous avez Dominique de Villepin, et qui n'est pas quelqu'un qu'on a forcément envie de plaindre, qui est quelqu'un qui a sans doute fait des mauvais coups aussi dans sa carrière, comme beaucoup de politiques, mais qui, objectivement, a été victime d'une vendetta du pouvoir, parce qu'à un moment, évidemment, il a contrarié Nicolas Sarkozy. Sauf qu'évidemment, quelqu'un comme Dominique de Villepin, c'est quelqu'un qui a quand même plus de moyens de répliquer. Il a au moins les médias, il a l'habitude des attaques, et ne serait-ce que parce que lui-même en a porté. Donc il peut se défendre. Donc nous, ce qui nous a frappé dans cette assemblée un peu hétéroclite des victimes du sarkozysme, c'est pas seulement les méthodes qui étaient employées, mais c'était surtout la façon dont ces victimes ont reçu, en quelque sorte, la sanction. Et c'est vrai qu'on a trouvé des témoignages vraiment très, très émouvants de personnes pour qui, parfois, on n'avait pas forcément une grande sympathie. Je vais prendre un exemple très simple. C'est celui de Daniel Bouton, donc l'ancien patron de la Société Générale, qui a finalement dû quitter son poste en conséquence, bien sûr, de la fameuse affaire Kerviel. Bon, c'est quelqu'un qui est parti avec je ne sais pas combien de millions d'euros de retraite. Bon, voilà, c'est pas quelqu'un qui est à plaindre, objectivement, vraiment pas. Mais il n'empêche qu'après tout, c'est un homme, hein, aussi. Et ça, nous, on l'a vu dans un petit bureau. Aujourd'hui, il est quand même plus grand-chose, socialement, en tous les cas. Il a été l'objet de la vindicte de Nicolas Sarkozy pour des motifs, nous semble-t-il, qui ne correspondaient pas à ceux qu'on aurait peut-être dû retenir contre lui. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, il ne l'a pas sanctionné parce que Jérôme Kerviel avait fait n'importe quoi. Nicolas Sarkozy l'a sanctionné parce qu'il ne l'avait pas prévenu le premier qu'il y avait eu un gros problème à la Société Générale. Bon. Or, Daniel Bouton, dans l'entretien qu'il nous a accordé, qui je pense est vraiment le premier et le dernier qu'il accorde sur cet épisode, explique bien dans le détail comment ça s'est passé, comment il a géré cette histoire, qui a failli quand même couler non seulement sa blanque et peut-être toute la place de Paris, et que c'est volontairement qu'à l'époque, il n'avait pas prévenu l'autorité politique en premier, parce qu'il savait qu'en prévenant l'autorité politique, il y avait évidemment des risques de fuite, et que par contagion, c'était le système bancaire qui pouvait s'écrouler. Donc, qu'on pense ce qu'on veut du bonhomme, objectivement, il est reconnu par tous qu'il a bien géré cette situation, sauf qu'il a été sanctionné. Et il l'avait vraiment vécu comme une injustice. Le fait d'avoir été livré à la vindicte publique, puisqu'il faut reprendre les déclarations qu'on reprend dans le livre de Nicolas Sarkozy le concernant, qui, à de nombreuses reprises, s'est vraiment acharné sur lui, en le pointant du doigt devant des millions de téléspectateurs, en le prenant en quelque sorte comme exemple de toutes les dérives du système bancaire. Il l'a vraiment vécu comme une injustice, et c'est un type qui a été brisé. Donc voilà, encore une fois... On a une assemblée très diverse de témoignages. Toutes les personnes qu'on présente ne sont pas des personnes forcément innocentes. Certaines d'entre elles ont commis des erreurs, des fautes. Certaines, par contre, sont, me semble-t-il, irréprochables, comme la comptable. Mais elles ont tout en commun d'avoir été victimes, on va dire, d'une sorte d'injustice d'État. Voilà.
À propos de Daniel Bouton, page 252, au début de l'entretien... Daniel Bouton dit « J'essaie de ne pas voir de journaliste, ni même d'historien, histoire d'oublier ça. Hein. Mmh. S'agissant de Nicolas Sarkozy, je tire deux constats, dit-il, de ma propre expérience. D'abord, il fait preuve d'une impulsivité pour le moins étrange à ce niveau de responsabilité. Plus grave chez lui, deuxièmement, il y a ce qui est mûri, comme son fameux discours de Grenoble, et qui révolte le citoyen que je suis, notamment sur la double peine appliquée aux étrangers. » Alors, la question que j'avais envie de vous poser, c'est, finalement, c'est pas un livre qui est consacré à Nicolas Sarkozy, hein, puisqu'on peut dire que le 28e personnage, celui dont vous ne faites pas ne vous racontez pas l'histoire, c'est en creux celui qui est là comme une ombre, en fait, dans tout le livre. Donc vous dessinez un portrait à charge, mais j'allais dire, un peu comme on pourrait parler d'un bas-relief, de Nicolas Sarkozy. Et au début du livre, page 16, vous évoquez une personnalité qu'on a un peu oubliée maintenant, Didier Schuller, célèbre parce que, entre autres, protagoniste d'un des épisodes de l'affaire Alphen Maréchal, avec le beau-père du juge Alphen, Didier Schuller, donc directeur des HLM de Paris, mis en cause, évidemment, dans une des premières affaires financières des HLM. Et puis, par ailleurs, héros d'un merveilleux documentaire de Claude Zinsberger qui s'appelle toujours Clichy à tout prix. Bon. Et Schuller dit, j'ai rencontré Sarkozy, alors je crois que c'est en 83.
Oui, c'est au tout début, hein, quand il est maire de Neuilly.
Voilà, il vient d'être maire de Neuilly, ouais. Il vient de récupérer, de prendre, on va dire, d'arracher la mairie de Neuilly à 28 ans à la barbe de Charles Pasqua, qui était momentanément sur un lit d'hôpital. Et Schuller dit, Sarkozy me dit, je vais être président de la République, est-ce que tu es pour moi ou contre moi ? Bon. Et dans votre texte, vous dites, le sarkozysme, c'est une méthode. Alors là, vous venez de nous expliquer qu'il y a pluralité de méthodes, finalement, pour ostraciser, au sens classique du mot ostracisme, les adversaires. En quoi est-ce que vous pouvez dire que le sarkozysme est une forme d'exercice violent ou symboliquement violent du pouvoir ?
Ben, quand on dit que le sarkozysme est une méthode, déjà, c'est... Pour reprendre, je pense, la citation dans son contexte et dans son intégralité, il me semble qu'on précise que c'est aussi parce que c'est finalement le Sarkozy, c'est pas une idéologie au sens politique du terme, c'est plutôt du pragmatisme. Hein, et Nicolas Sarkozy l'a montré à plusieurs reprises, d'ailleurs parfois avec talent, parce qu'encore une fois, notre livre, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ce n'est pas un livre signé par deux auteurs qui se revendiquent ou qui se qualifient d'anti-sarkozistes, pas du tout. Nous, on est journalistes, tout simplement. Et on dit bien aussi dans la préface qu'on éclaire la face sombre d'une présidence. Hein, c'est très important.
De 9 ans de Sarkozy.
Alors, parce que
il y a la partie ministère de l'Intérieur.
Voilà, ministère de l'Intérieur. En fait, son ascension du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Et donc, nous, on estime que c'est notre rôle de journaliste d'aller fouiller un peu, de voir derrière le rideau ce qui se passe. Et donc, ce qu'on a découvert sur la méthode, effectivement, c'est que s'il n'y a pas d'idéologie, il y a un système qui est basé, on va dire, sur le volontarisme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui agit beaucoup, qui d'ailleurs communique beaucoup sur le fait qu'il agit, qu'il ne laisse pas les choses en l'état, etc. Mais le problème, on va dire, c'est qu'il veut s'occuper de tout. Donc ça veut dire qu'il veut intervenir dans tous les domaines. Et il y a des fois, évidemment, c'est un souci. C'est-à-dire que c'est tout bête, mais il regarde la télévision, il y a une émission de télé qui ne lui plaît pas, il va appeler le président de la chaîne ou voir l'animateur directement pour lui dire « ça va pas, qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, quand j'étais petit, il y avait des meilleures émissions, etc. » Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, qui est propre au sarkozysme, mais qui parfois peut, je pense, part d'un bon sentiment. Quand il dénonce à Marseille le fait qu'il y a un parking souterrain, on l'a vu récemment, où les usagers étaient rackettés par des délinquants qui avaient pris le contrôle du parking... Et il voit ça et c'est tout bête, hein, d'après ce conseil. Il a vu un reportage à la télé et il s'est dit oh, comment c'est pas possible, c'est moi le président, ça doit changer. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Il a viré dans la foulée le patron de la police. Donc je dirais que sa réaction spontanée, elle est plutôt de bon sens. Après tout, c'est légitime que le chef de l'État se préoccupe de tout ce qui peut arriver à ses concitoyens dans toutes les parties du pays. En revanche, ce qui est un peu problématique, c'est qu'il se considère ensuite moins comme un président de la République que comme un monarque, éclairé ou pas. Mais c'est-à-dire que c'est moi le patron, c'est moi qui décide, donc lui, vous me le virez. Et c'est comme ça que ça se passe.
D'où la phrase qui est, je crois, prêtée à Dominique de Villepin, qui dit, c'est sa phrase favorite, c'est « pourquoi je me gênerais ?»
Oui, c'est exactement ça. Ouais. Dominique de Villepin nous l'a répété à plusieurs reprises. En fait, c'est probablement le meilleur connaisseur du Sarkozy intime.
Avec Alain Juppé.
Avec Alain Juppé. Ouais. Bon, non, nous sommes à Bordeaux. Mais Dominique de Villepin le connaît vraiment très très bien. Il se heurtait à lui, c'est un rival, mais aussi quelqu'un avec qui il s'est accoquiné à de maintes reprises dans plusieurs dossiers. Donc il nous dit effectivement très clairement sa phrase, cette phrase qu'il répète à longueur de journée, c'est « Et pourquoi je me gênerais ?» Et ça renvoie à quoi ? ça renvoie à une forme d'impunité qui est, à mon avis, propre au sarkozysme, donc à Nicolas Sarkozy, mais aussi aux hommes qui l'accompagnent depuis 2002. C'est-à-dire, nous sommes au pouvoir, donc tout nous est permis, ou presque. Voilà. Et nous pensons, nous, observateurs attentifs de la vie politique depuis de nombreuses années, que ce qui caractérise les hommes d'État en général, c'est d'avoir du pouvoir et de ne pas en abuser. Là, en l'occurrence, il y a un abus systématique qui part parfois pour de bonnes raisons, hein, comme l'histoire de Marseille, mais qui, à l'arrivée, débouche sur un sentiment d'exagération, de dérive. Que s'est-il passé concrètement ? Nous, on parle donc dans ce livre d'un système qui est mis en place. Il est mis en place de manière extrêmement professionnelle. Dès 2002, Nicolas Sarkozy, parce que c'est un extraordinaire intuitif, repère ceux qui sont très bons, qui seront à ses côtés. Donc ce sont des policiers qui sont au départ simples commissaires ou qui ne sont pas encore préfets, ou alors des procureurs qui commencent leur carrière. Ou voilà. Donc il s'appelle Frédéric Pechenard, aujourd'hui patron de la police, Bernard Scorsini, patron des renseignements, Philippe Courroy, procureur de Nanterre, et que sais-je, il y en a un peu partout. Et ces gens-là vont être sa garde rapprochée. Et depuis 2002, ils ont franchi les échelons hiérarchiques en même temps que Nicolas Sarkozy a accédé au plus haut degré de l'État. Parallèlement, ils noyautent aussi tout le côté médiatique, puisqu'il est copain, je le rappelle, avec Vincent Bolloré, Martin Bouygues, Arnaud Lagardère. Et puis là, il nomme maintenant, depuis qu'il est chef de l'État, il nomme ses proches à la tête d'entreprises importantes, donc Air France bientôt, mais il y a aussi Stéphane Richard à Orange, etc. Et tout ce système-là, qui sont souvent des hommes extrêmement compétents dans leur domaine, concourt à instaurer un espèce de cordon sécuritaire autour du président. Et quand ce cordon sécuritaire vient à céder par moment, donc on l'a vu dans l'affaire Bettencourt, où Le Monde a publié des informations qui mettaient en péril l'édifice, en tout cas la réforme des retraites voulue par mise en place par Éric Woerth, eh bien, là, il y a une réunion à l'Élysée, ça a été, mais vous ne me protégez pas. Voilà, il y a, et pourquoi je me gênerais ? Et puis il y a, vous ne me protégez pas. Et à ce moment-là, il a été décidé, les hommes qui sont proches de l'État, et donc en l'occurrence Bernard Scorsini, a décidé donc de trouver la source du Monde. Et donc il s'est avéré que mon téléphone portable a été mis sous surveillance par les services de renseignement, ce qui est contraire à la loi. Voilà. C'est cette forme-là d'impunité et de pouvoir extrême qui, à mon sens, caractérise aussi cette méthode dont vous parliez. Ce n'est pas une idéologie, c'est une méthode, un mélange de pragmatisme, d'autoritarisme et puis d'impunité.
Alors, dans la préface qui est vraiment passionnante, hein, vous, qui introduit, je crois, très très bien le livre, vous dites vous-même, cette violence symbolique du pouvoir, hein, elle a existé, on pourra toujours nous dire qu'elle existait précédemment, vous citez d'ailleurs la période François Mitterrand, hein, et un certain nombre de comportements et d'attitudes de François Mitterrand ou de son entourage. En vous écoutant à l'instant, là, je pensais... Ça, c'est pas le même registre, et puis c'était pas François Mitterrand qui a prononcé cette phrase, mais en 80-82, André Laignel, au micro de l'Assemblée nationale, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Bon, hein, d'une certaine façon, oui. Avoir la majorité politique en France est souvent perçu comme, sans doute dans une espèce d'héritage effectivement monarchique, une capacité à tout faire. En contradiction, si je puis dire, complète contradiction avec les fameux check and balances anglo-saxons, hein, voilà. Qui, à l'inverse, donnent d'autres précautions. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a... Alors, est-ce que c'est une sorte d'hubris du sarkozysme ou un point d'acmé ou une exagération du processus? Est-ce que avec Sarkozy, on est en train de dépasser tout ce qui a pu se faire jusqu'à maintenant?
Bah, ouais, tu réponds.
Ouais, ouais, je commence. Je on nous a souvent dit, effectivement, mais ça se passait déjà sous Mitterrand et sous Chirac. Bon.
Et sous Pompidou.
Oui, le micro Bernard enchaîné. Oui. Il y a toujours eu des coups fourrés, bien sûr, émanant du pouvoir. C'est une certitude. Souvent visant les journalistes, puisqu'on est, nous, on est les relais entre le pouvoir et vous. Hein. On est juste ça. Et oui, ça a toujours existé. Alors, première remarque, même si ça a toujours existé, est-ce que pour autant il ne faut pas en parler ? Voilà. Moi, je considère que notre travail, c'est de toute façon d'en parler systématiquement, parce que là où il y a des rives, on est là pour en parler. Deuxièmement, sous Nicolas Sarkozy, il y a une constante, hein, c'est la volonté d'humilier. Voilà. Chirac, parce qu'on connaît, on a bien travaillé sur le cas Chirac, ne mettez pas personnellement les mains dans le cambouis. Voilà. Il avait des hommes pour ça, Dominique de Villepin en l'occurrence, qui étaient là pour déminer les procédures qui pouvaient aller jusqu'à lui. Avec Nicolas Sarkozy, d'abord, il intervient directement. Il n'hésite pas à prendre son téléphone et à appeler les gens. C'est vraiment une caractéristique chez lui. Et deuxièmement, il y a une volonté de mettre plus bas que terre les gens. Dans le livre, si vous avez la gentillesse de le lire, dedans, il y a le cas de Jean-Pierre Avrin, donc le patron de la police de Toulouse, qui nous dit « Je ne me suis jamais senti autant humilié que le jour où Nicolas Sarkozy m'a ridiculisé dans mes hommes. »
Il dit même qu'il regrette de ne pas lui avoir mis un coup de boule parce que c'est ce qu'il méritait.
Oui, il le pense. Hein. Et il y a quelqu'un que vous connaissez ici, qui s'appelle Éric Delzan, qui est le directeur général de la communauté de Bordeaux.
La communauté urbaine de Bordeaux.
Ouais, qui était avant préfet en Corse et qui a été viré vraiment sans expédient de Corse parce qu'il y avait une manifestation qui avait dégénéré à l'époque où Sarkozy et Raffarin y avaient tenu meeting. Dégénéré d'ailleurs, de par la faute, a priori, Nicolas Sarkozy. Mais en tout cas, le cabinet de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, avait fait fuiter à l'époque des photos du préfet Delzan. Ces photos qui étaient absolument ridicules. Le préfet Delzan avait des problèmes de vue et il avait à l'époque des lunettes noires foncées. Enfin, il ressemblait à Jaruzelski. C'était
À un colonel de l'armée mexicaine.
Il était absolument ridicule. Et Delzan l'a vécu comme une humiliation. Et c'est vrai que ça paraissait ridicule. Et c'est cette conjonction des choses, c'est-à-dire la volonté d'écraser, l'humiliation, et le fait que je m'occupe personnellement des choses, qui, à mon avis, le différencie de Jacques Chirac.
Ouais, j'ajouterais une chose. Tout à l'heure, vous parliez à juste titre de l'époque François Mitterrand. Il y a des similitudes. Et Nicolas Sarkozy ne cache pas l'admiration qu'il a pour François Mitterrand, pour son parcours politique. D'ailleurs, il a annoncé à ses proches que la campagne présidentielle qui s'annonce, il voulait la copier sur celle de Mitterrand en 88 pour sa réélection.
Cela dit, il n'a pas beaucoup d'autres modèles. Hein.
Non, c'est vrai.
C'est un peu Chirac, mais bon.
Mais n'empêche que ce n'est pas neutre. Voilà. A priori, on pourrait attendre une autre référence d'un président de l'UMP que François Mitterrand. Et je pense que ça va au-delà du côté cynique, calculateur, mais aussi bon stratège de Mitterrand. Il n'admire pas que ça chez lui. Je crois qu'il admire aussi ce qu'on pourrait appeler le monarque éclairé que François Mitterrand a été, que je pense que Jacques Chirac fut beaucoup moins, et que Nicolas Sarkozy entend être de nouveau. Et c'est pour ça qu'à travers ce livre se dessine, comme vous disiez, un peu en creux le portrait d'un président. Moi, je dirais qu'en fait, il incarne jusqu'à la caricature la dérive présidentialiste de ce régime. C'est vrai que quelque part, ce n'est pas nouveau, mais comme le disait Gérard très bien, c'est pas parce que c'est pas nouveau qu'il ne faut pas dénoncer les dérives. D'autre part, je crois que il y a un degré, une intensité beaucoup plus forte. Il y a effectivement la violence, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Par exemple, on sait que ça nous paraît fou aujourd'hui, mais que le général de Gaulle exigeait de payer les factures d'électricité de l'Élysée parce qu'il estimait que c'était lui qui se servait d'électricité, que c'était à lui de payer. Que fait Nicolas Sarkozy quand il arrive au pouvoir? Non seulement il réunit ses amis au Fouquet's, ensuite il va sur le yacht d'un milliardaire et il double son salaire de président. Voilà, donc encore une fois, il peut le faire, moi j'ai rien contre ça, mais ce que je veux dire, c'est que dans le système que l'on a, qui est le système de la Ve République, je pense qu'à un moment, le danger, c'est lorsque vous avez un système qui donne un pouvoir très fort au président, sans doute évidemment par opposition à ce qu'on avait connu pendant la Ve République. Le système est dangereux à partir du moment où cette fonction très forte du président rencontre un homme qui lui-même a un caractère, on va dire, autoritaire, extrêmement à la fois velléitaire et dirigiste.
Impulsif.
Et c'est le cas avec Nicolas Sarkozy. Donc je pense que c'est vraiment la rencontre d'un poste avec un homme qui crée cette situation qui amène aux dérives que l'on met en lumière dans cet ouvrage.
On a parfois l'impression, on va donner la parole à la salle rapidement, mais on a parfois l'impression que les personnes que vous interrogez sont à la fois évidemment choquées, hein, on va dire, de ce qui leur est arrivé, hein, très clairement, parfois amenées à faire une sorte de complet retour sur leur histoire. Je pense à Alain Genestard, par exemple, hein, qui, vous dites, et il y a un passage très, très intéressant, vous dites, ils habitent pas loin l'un de l'autre, si j'ai bien compris. Alors, je me confonds les arrondissements, mais c'est le cas à côté de l'hôtel particulier de Carla Bruni-Sarkozy. Hein. Et Genestard, finalement, maintenant, il regarde le pouvoir avec une forme de grand détachement. Il a créé cette belle revue qui s'appelle Polska.
Hein, Polka Magazine.
Polka Magazine. Et donc, voilà, ça, c'est une sorte de j'allais dire, presque, on pourrait dire, de ressourcement, d'une certaine façon. On pourrait presque dire à quelque chose, malheur est bon. Mais, évidemment, vous parlez de Claire Thibault, qui c'est vrai que c'est un passage qui est très, très fort. Isabelle Prévost-Després, par exemple, ça a été un des passages qui a été le plus médiatisé du livre, hein, puisque ça a même donné lieu à, si j'ai bien suivi, convocation d'Isabelle Prévost-Després pour s'expliquer, etc. Là, est-ce que c'est de la maladresse? Est-ce que c'est une vraie erreur? Comment une juge professionnelle peut évoquer, hors procès-verbal, une confidence qui est faite à une greffière? Comment vous expliquez ça?
Alors, à mon avis, justement, c'est intéressant de s'arrêter sur ce cas, parce que, bon, il se trouve que nos confrères, les médias, ont embrayé sur, en fait, ce qui représente quatre phrases chapitre, qui est donné à titre illustratif pour montrer à quel point le pouvoir était prêt à tout dans cette affaire pour faire taire les témoins.
On amène du mal à retrouver exactement la phrase dans le texte tellement...
Oui, parce que effectivement, voilà, pour nous, ça ne...
Pas 135, ça fait effectivement 2 lignes et demie.
Oui, le livre, c'est pas exactement ça. Mais en revanche, la bonne question, c'est celle que vous posiez, c'est pourquoi, comment se fait-il qu'une magistrate aussi connue, aussi expérimentée, aussi respectée, tient des propos...
Qui se sait... observer
nous tient des propos qu'elle a en plus assumés, puisqu'elle a relu les propos qu'on lui a prêtés, elle les a relus plusieurs fois, elle les a validés sans aucun problème, elle continue de les assumer d'ailleurs. Pourquoi cette femme, en quelque sorte, prend ce risque? Parce qu'au-delà de ces quelques phrases sur des remises d'espèces pour Nicolas Sarkozy, qui encore une fois, de notre point de vue, sont plutôt anecdotiques, surtout, elle a des mots incroyablement durs sur le fonctionnement du parquet de Nanterre, tenu par un ami de Nicolas Sarkozy, Philippe Courroy, et elle explique comment on la place sur écoute, ou du moins le croit-elle, comment on la surveille, comment on essaye d'exploiter les éléments de son divorce pour l'affaiblir.
On a même dit qu'elle avait été la maîtresse de Philippe Courroy.
Comment on laisse entendre des choses sur sa vie privée, etc. C'est vrai qu'elle fait une description hallucinante du fonctionnement d'un tribunal, qui est quand même, je crois, le deuxième tribunal de France. C'est absolument effrayant. Et donc, comment cette personne peut être amenée à prendre le risque de vider son sac de cette manière? Eh bien, justement, c'est précisément l'objet du livre. C'est que c'est une personne qui a été tellement... effrayée par ce qui lui est arrivé et tellement choquée qu'elle a estimé, elle nous l'a dit d'ailleurs en quelque sorte, à travers les lignes, je pense que ça apparaît très clairement, elle a estimé qu'à un moment, eh ben, il fallait faire abstraction de la langue de bois, des règles même déontologiques qui tiennent au magistrat, qui fait que normalement le magistrat n'a pas le droit d'évoquer un dossier dont il a la charge, etc. Et son discours, c'est de dire, il y a des moments dans la vie où, j'allais dire, il faut peut-être oublier un petit peu les textes et dire les choses parce que c'est grave. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, je vais prendre un exemple extrême, mais vous entendez chez votre voisin des cris, des hurlements, vous êtes chez vous, alors soit vous restez en dehors, vous appelez la police et vous attendez, soit vous pénétrez dans l'appartement, vous allez même casser la porte pour aller essayer de sauver cette personne, mais ce faisant, vous commettez un délit. Vous commettez le délit de...
Donc, pour bien vous comprendre, vous êtes en train d'expliquer que, d'une certaine façon, Nicolas Sarkozy, la méthode Sarkozy, Nicolas Sarkozy imprimerait un tel fonctionnement au rapport, on va dire, sociaux et politiques, que c'est pas la théorie de la guerre juste, mais que ça donnerait une coloration globale qui ferait qu'au bout du compte, on pourrait aussi avoir de l'illégalité dans la réponse.
En tout cas, je pense que c'est ce que dit Isabelle Prévost-Després, et je pense que c'est ce que ressentent beaucoup de ses victimes. Et il y a une phrase qui est très révélatrice, qui nous est donnée par Patrick Poidre-d'Arvor, qui fait l'objet d'un qui est l'objet d'un chapitre, et qui nous a confié Nicolas Sarkozy, quand il ne sera plus au pouvoir, il n'aura plus beaucoup d'amis. Il n'aura plus beaucoup d'amis parce qu'il a été trop violent. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que les gens nous ont parlé. C'est parce qu'ils se sont dit, tant pis, je prends des risques, mais de toute façon, il m'a brisé et je veux témoigner.
On a compris que tout ce que vous souhaitez, c'est que la couverture de la prochaine campagne présidentielle soit plus faite par les journalistes politiques que par les spécialistes des procès.
Ce serait plus rassurant, en fait.
Bah, écoutez, merci. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci pour...
Donc, je crois que Gérard Davé et Fabrice Lhomme sont disposés à signer les ouvrages, si vous voulez leur présenter, si vous voulez une dédicace.